Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la Baleine. Épisode 10. Les revenants. Cimetière du village et lien à la mortalité. Selon l'historien François Drouin, et je le cite, les cimetières sont des lieux de mémoire parmi les plus signifiants du territoire et des communautés qui ont fait le Québec d'hier à aujourd'hui. On interrogera donc avec attention l'histoire des cimetières, mais aussi la relation entre les vivants et les morts à Tête à la Baleine, accompagnée surtout de la voix de José Maillot, une anthropologue venue effectuer des recherches au village sur le sujet au début des années 1960.
Bon, ben voici.
José Maillot avait été accueilli chez un maître de pêche du village et guidé par un certain Midas Monger, qu'elle appelait affectueusement son chevalier servant, puisqu'il la trimbalait en bateau d'un bout à l'autre de l'archipel d'îles face au village, ce qui lui permettait de visiter les différents cimetières.
Sur l'île de la Providence, il n'y avait pas de cimetière, si je me rappelle bien. Les gens faisaient étaient tous inhumés dans le cimetière de terre, qu'on appelait, dans le fond de la baie Plate, dans le village du Vert. C'est là où il y avait des cimetières. Peut-être qu'il y avait deux, parce qu'il y avait une petite agglomération qui s'appelait le Portage du Vert. Et là aussi, il y avait un cimetière. Alors, il y avait comme deux cimetières sur la terre ferme. Et puis, au large, dans les îles du large, il y en avait un qui était abandonné à l'île Sucante. Et là, il y avait un cimetière. Que Midas m'a emmené voir un jour. Mais l'île Sucante, si je me rappelle bien, n'était pas très fréquentée. Elle était, c'est loin, hein, d'aller là à partir de, mettons, de l'île de la Providence. Là, c'est un bon bout.
Le premier cimetière, le cimetière du Large, celui sur l'île Kenty, daterait d'environ 1850. Quelques dizaines de pierres tombales, encore étrangement blanches, s'y tiennent droites et fendent le vent. L'île Kenty fut vidée de ses habitants en 1929, ce qui n'empêche pas que des morts y soient enterrés jusqu'en 1936. Comme José Maillot en parlait un peu plus tôt, un autre cimetière parmi les plus vieux est celui du Portage d'Hiver. Gilles Monger nous en parle, lui qui a justement grandi dans cet ancien hameau du village.
Je faisais allusion au cimetière. Le cimetière, c'était pas le cimetière justement, seulement pour le Portage d'Hiver. C'était le cimetière pour tout ce qui regroupait Tête à la Baleine. Et ceux qui étaient à Chaudière-Vanne, ceux qui étaient chez les Timarcos, ceux qui étaient à la rivière Champagne, ceux qui étaient chez Nadeau, partout, puis même les catholiques de Pointe-aux-Marie, puis de Pointe-aux-Marie, puis des Tamamiou, la plupart sont enterrés là. Il y a quelques exceptions pour un certain nombre de blés qui ont été enterrés directement à la rivière des Tamamiou, devant leur petit cimetière.
Ça fait loin pour les familles?
Il y a pourtant les corps. Parce que le cimetière du Portage-Hiver, ils l'ont commencé, là, je ne peux pas te dire l'année, mais c'est parce qu'avant ça, c'était un cimetière sur l'île Kenty. Puis, c'est pas facile d'accès. La moitié du temps, l'hiver, tu ne peux pas y aller. C'est des chiens à l'époque, tu ne pouvais pas y aller. Tu ne pouvais pas creuser sur travers des roches. Puis, même puis l'été, les tempêtes. Donc, l'été, en plein été, ça allait bien. C'est pour ça que souvent, on voit là, des. Qui manque des gens là, puis c'est à cause de ça.
Puis il y a aussi le fait que sur l'île, il y avait beaucoup moins de terre, d'endroits.
Ah, sur l'île, c'était. Il manquait de terre.
Et sur les îles enterrées, ça posait toujours un problème, c'est que les cimetières étaient peu nombreux, puis on ne pouvait pas mettre beaucoup de dépouilles dans le même cimetière, parce que la terre n'était pas assez importante. C'était comme des espèces de petits tas de terre qui avaient été ramassés à cause du vent et la décomposition des végétaux autour, la mousse, etc. Alors, ça faisait un peu de terre, mais il n'y avait pas de place pour enterrer 30 morts, là, par exemple. Ce qui était le cas dans les cimetières de la baie Plate, comme ils appelaient. le cimetière de la terre ferme, là, où il y avait le village d'hiver, là, il y avait de la terre en masse pour enterrer. Pour moi, le fait d'enterrer des gens sur les îles, ça a dû se terminer peu de temps après que j'ai fait mon séjour là-bas, moi. Et de plus en plus, je crois que les gens se tapaient le voyage, c'est le cas de le dire, parce que c'était quelque chose là de rentrer à l'intérieur des terres, là, avec les baies plates. Là, vous avez entendu parler des baies plates, c'est des baies qui viennent à marée basse, elles sont presque asséchées. Il y a juste un canal qui permet de se rendre jusque vraiment au cœur du village de terre. Et les gens choisissaient de plus en plus d'enterrer les morts sur la terre ferme. Et ça posait là encore des problèmes d'accessibilité parce que les baies à marée basse deviennent presque asséchées et donc il n'y a plus d'eau. On ne peut plus naviguer presque. Alors, c'était toujours assez hasardeux d'aller enterrer, de partir de la zone où les gens étaient installés pour la pêche, le large, comme ils appelaient, et d'aller enterrer un mort sur la terre ferme. Ça demandait beaucoup de travail. Il fallait... ça faisait partie, on aurait dit, de l'espèce de destin auquel on est acculé quand on habite peut-être à la baleine, c'est qu'il faut aller enterrer nos morts dans les baies plates, même si c'est compliqué, puis que c'est beaucoup d'ouvrages, puis que c'est pas toujours évident. Ça demandait beaucoup de force physique aussi, de traîner un cercueil avec un cadavre dedans, là, dans les petits bateaux, là, et puis il y a des gens qui s'échouaient. Il y avait toujours des histoires autour du transport des morts là, vers le cimetière de terre.
Ici, j'ai l'emplacement des tombes du portage d'hiver.
Ça, c'est une crise que j'ai faite lorsqu'on a fait la réduit que j'ai faite lorsqu'on a fait la réparation.
Quand vous avez réparé le portage d'hiver, la clôture.
Puis, ils ont fait un cimetière là, parce que là, c'était facile à creuser, assez facile d'accès. Les familles qui rentraient, il y avait du monde là déjà. Mm-hmm. Il ne fallait pas se rendre pour aller chercher tout ça. Mm-hmm. Puis, encore là, il y avait pas de cimetière comme tel au village, et c'était en 73. Des hivers très froids, je peux te donner l'exemple, justement, c'était pour mon oncle Midas. Ça a pris 2 jours pour creuser la fosse, puis pas parce que les gars ne travaillaient pas, ils se relayaient. C'était au marteau-piqueur, là, les jackhammers, parce que la glaise ici, à cause de l'eau, tout ça, je gèle en profondeur à 5 pieds à des endroits comme ça.
Ce serait M. Joe Mercier qui a été enterré le dernier, là, après mon oncle Menon?
Ben, c'est ça, mais c'est des gens, le cimetière existait ici, c'est des gens qui m'ont demandé d'être enterré là-bas.
Parce que c'est ta mère, en 71, qui a été...
Une des dernières
enterrées là, avant que Val-de-Paix soit inaugurée ici.
Ouais. Parce que maman, c'est en 71, puis en 73, c'est débuté ici. Ouais. Mon oncle Manon, M. Joe, puis il vient d'avoir un autre, madame...
Claude Aimé,
lui, c'est parce qu'il est mort dans le même temps que maman.
Oui.
Puis...
76.
Il y a M. Bidon qui doit être là aussi.
Nazaire Mercier, c'est ça.
Puis Joe Mercier, sa madame, là...
Avant l'enterrement, le rituel funéraire est vécu par différents membres de la communauté, de l'agonie du mourant jusqu'à sa mise en terre. Et avant les années 1970 surtout, ce rituel funéraire était extrêmement codifié.
Ben, le plus intéressant, c'est peut-être l'exposition du corps. Là. L'exposition du corps. Le corps est exposé dans sa maison, dans la maison du vivant. Sur des planches de bois, là, et puis qui sont recouvertes d'un drap blanc, si je me rappelle bien. Et puis, il y a un sens dans lequel le mort doit être exposé. Il ne peut pas être n'importe comment. Il doit être exposé le long d'un mur et avoir les pieds qui sont dirigés vers la porte de la maison. Dans toutes les maisons, il y avait une seule porte. Et puis, si je me rappelle bien, il y avait quelque chose par rapport à la façon dont on doit le faire sortir de la maison. On ne pouvait pas le faire sortir n'importe comment. Et ça, c'est très intéressant parce que il y avait la même prescription pour la façon dont on doit virer de bord quand on est dans un bateau. On ne peut pas virer de bord n'importe comment. On ne peut pas virer à gauche. Il faut toujours virer à droite. Et virer à droite, ça veut dire, pour eux, ça veut dire virer dans le sens du soleil. Par rapport à nous, ça veut dire ça serait à l'est. Pour moi, c'est ça, à ça que ça réfère. Ça réfère à l'orientation est-ouest, nord-sud, là. Alors ça, c'est très, très, c'était une prescription très, très précise que tout le monde suivait. Le cercueil, c'est comme un bateau, hein? L'analogie est facile à faire. Ça se ressemble beaucoup.
Une autre particularité propre à Tête à la Baleine, c'est aussi l'absence de morgue, ce qui crée une certaine urgence pour procéder à l'enterrement.
Il y a nulle part, je pense, sur la côte où il y a des morgues. J'ai jamais entendu parler de morgue, moi, jamais, jamais.
Il n'y avait pas de salon funéraire, bien sûr. Alors, on apportait la personne décédée à l'église.
Ah, bon. C'est un peu comme la morgue.
Les gens avaient peur des morts. Quand on a rénové l'église, on a rénové aussi le sous-sol. Puis on a dit, ben, le sous-sol, ça sera le salon funéraire. Maintenant, là, après ça, les gens sont mis à dire, on ne peut plus faire de réunion parce que c'est salon funéraire. Les gens, ils ont peur des morts. Alors là, j'ai dit, ben, je commence à comprendre pourquoi vous ne venez plus à l'église. C'est là que vous mettez les morts.
C'est ça.
Une série de superstitions existe au village autour de la mortalité. Si la veillée d'un mort dépasse la journée du dimanche, ce dimanche sur les planches vaudra alors la mort d'une personne dans la parenté du défunt dans l'année. Le cercueil est immobile un instant devant une maison lors de son déplacement vers le cimetière. La mort est semée dans cette maison. Le sexe de la première personne à sortir du cimetière après l'enterrement prédira le sexe du prochain mort dans le village. La mort est annoncée au village si un corbeau est tué, si on entre dans une maison avec une pelle, si quelqu'un entend sonner la cloche de l'église alors qu'elle n'a pourtant pas sonné. Pas de danse, pas de jeu de cartes pendant un an et demi. C'est ce que dure habituellement la période d'un deuil, période qui varie selon la proximité familiale de la personne décédée. La famille porte le noir pendant cette période. Les monuments commémoratifs au cimetière étaient installés un an après la mise en terre, et si une famille n'avait pas les moyens de payer une pierre, des épitaphes la remplaçaient. C'est entre autres un chant de service anniversaire qui clôt la période de deuil, qui peut aller jusqu'à un an après le trépas.
Des morts sur le dos, que les gens disaient à Tête à la Baleine. Il a un mort sur le dos. Ça veut dire qu'il est tracassé par un mort envers lequel il sent qu'il n'a pas tout fait lors de son vivant. Et c'est comme si on sentait que le mort venait nous faire des reproches. C'est comme ressentir la culpabilité du fait que le rapport n'était pas... comme il aurait dû être, parce que le rôle du vivant, c'est de s'assurer que le mort va arriver dans l'au-delà. Alors tout ça, ça revient à une conception de la religion où les vivants qui restent sur la terre sont responsables du destin éternel des morts. Ils sont responsables d'eux. Alors ils doivent s'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Ils doivent, par exemple, acquitter les rituels funéraires et de la façon prescrite. Ils doivent aussi faire dire des messes et des prières pour le repos de l'âme du défunt. Et ils doivent s'acquitter du rituel, du déroulement du rituel funéraire, enfin toute l'exposition du corps, la levée du corps, son acheminement vers le cimetière, après ça, l'enterrement proprement dit, etc. Tous ces rituels-là qui sont extrêmement importants et ils doivent être accomplis selon une façon qui était prescrite pour avoir leur efficacité, si vous voulez.
Pourquoi ces prescriptions prenaient autant de place dans le rituel funéraire à tête à la baleine? En fait, la question c'est, et que se passe-t-il sinon?
C'est quelque chose que j'ai découvert une fois rendu sur place, que les gens parlaient beaucoup des revenants qu'ils appelaient, des morts qui leur étaient apparus. Alors ça a allumé chez moi un intérêt assez spécial. Alors j'ai poursuivi cette ligne-là des rapports avec les revenants. Est-ce que vous avez vu des revenants? Puis d'ailleurs, plus je connaissais les gens, plus je voyais qu'il y avait des femmes, par exemple, qui avaient tellement peur des morts qu'elles ne sortaient pas toutes seules de chez elles. C'était une vraie peur qui était alimentée par des récits que les gens racontaient de toutes sortes d'apparitions que les vivants avaient eues des morts. Un tel mort était apparu à un tel. C'était assez... Se faire raconter ça par la personne qui l'a vu elle-même, là, moi j'étais rendue que je croyais au revenant. Hein. Vous m'auriez dit, nous allons aller te mener sur telle île, puis nous allons te laisser là pour une heure ou deux, toute seule. J'aurais dit, non, ne faites pas ça. J'aurais eu peur de voir un revenant. Je ne me suis pas dit, ah, c'est des histoires inventées, c'est du folklore, c'est... Je sais pas quoi. Non, j'y croyais. Et d'ailleurs, la madame chez qui je pensionnais, Madame Alice, qui était la sœur de Midas, elle y croyait tellement qu'elle avait peur d'eux. Et puis, sa hantise, c'était de voir un revenant. Et elle se promenait jamais seule le soir sur l'île de peur de rencontrer un revenant. C'était réel, c'était pas mis en scène, ça, là. Les femmes, surtout, avaient peur. Avaient peur d'y rencontrer. Et moi, je comprends très bien ça.
Certains hommes utilisaient cette terreur et promettaient à leurs femmes de revenir les hanter. Il y avait aussi des personnes âgées auxquelles des jeunes avaient manqué de respect qui disaient vouloir revenir leur tirer les oreilles. Cela faisait en sorte que certains refusaient de vivre dans la maison de leurs parents, de peur de les voir apparaître.
Les gens savaient hein, que c'était un revenant, en fait. Et puis, je ne sais pas comment, d'ailleurs, ils pouvaient savoir ça. Parce que le revenant, certains ont décrit le revenant en disant c'était bien lui, j'ai reconnu sa chemise carottée qu'il portait tout le temps, et puis il y avait la pipe dans la bouche toute. Alors c'était bien lui. C'était une preuve ça que il était habillé comme d'habitude quoi. La raison pour laquelle les morts apparaissaient aux vivants, c'était pour leur rappeler qu'ils avaient des obligations envers un mort. Ils n'avaient pas dit assez de prières ou pas fait dire assez de messes pour le repos de leur âme. Et c'est pour ça que le revenant revenait se montrer à la personne. C'était pour lui signaler qu'elle devait poursuivre l'accomplissement de ses devoirs envers ce mort-là en particulier. Ou alors, si le mort a acquis de son vivant, contracté une dette, par exemple, et qu'il n'a pas réussi à l'acquitter de son vivant. Le vivant ne doit pas, quand il est passé à l'état de mort, il ne doit pas arriver dans l'au-delà avec toutes sortes de choses qui traînent derrière lui, qui n'ont pas été réglées. Des dettes non réglées, des promesses faites et non tenues. Les morts, les défunts ont toujours besoin de prières. Et certains ont besoin plus que d'autres parce qu'ils ont eu une vie un peu moins tranquille, quoi. Peut-être ils ont un peu trop bu, ou ils se sont beaucoup moqués des autres, ou ils ont fait des accros au principe de la charité chrétienne, des choses comme ça, des péchés, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que les histoires de revenants ont entre elles des points communs, comme le remarque José Maillot.
J'ai tout un sous-corpus qui traite de ça, les rapports entre un défunt et un vivant qui était à l'origine une promesse que deux hommes qui avaient vécu un hiver dans le même chantier s'étaient fait. C'est ça, ils s'étaient promis de se de se donner des nouvelles, si vous voulez, lors de la mort du premier. Le premier qui mourrait avertirait l'autre. Et alors, c'est ça, le gars est en train de faire quelque chose et tout à coup, il voit passer quelqu'un. Et il dit, ah, mais ça, c'était mon ami de chantier, Joe. Alors là, il sait que Joe est décédé. Il lui apparaît pour lui dire quelque chose.
Ni femme, ni enfant. Aucun bruit lorsqu'il se déplace. Ils sont froids, sans tête ou sans main, mais on peut les reconnaître par leurs anciennes habitudes, comme fumer la pipe ou ouvrir un poêle. Si aujourd'hui les histoires de revenants courent moins les îles de tête à la baleine, et si les rituels funéraires décrits dans cet épisode n'infringent plus la culture des baleinois et des baleinoises, la relation avec la mortalité est encore très présente au village. Il n'y a toujours pas de morgue sur la basse-côte nord, et l'hiver, les cercueils qui étaient à l'époque attachés sur des cométiques tirés par des chiens sont aujourd'hui tirés par des motoneiges, mais encore déplacés sur des cométiques. L'été, ils sont transportés en bateau ou acheminés en hélicoptère. Certains cimetières sur les îles sont encore visités et les histoires derrière ces cimetières insulaires sont toujours bien vivantes.
Ça se suit aussi un petit cimetière sur cette île-là.
Oui.
Mais c'est pas, il n'est pas répertorié. Et moi, j'ai été surprise quand j'ai entendu ça parce que je sais qu'il y a eu un cimetière au portage vert, le cimetière ici et le cimetière sur les Kenti.
Oui.
Mais celui-là, je ne savais pas. C'est-tu comme un cimetière visité ou...
Non, en fait, c'est ma grand-tante, la tante de mon père, qui a eu des enfants sur l'île. Et puis, les enfants sont comme morts-nés. Des histoires, ça fait longtemps que j'ai entendu. Puis, mais ouais, c'est ça, des jumeaux, jumelles, là, je sais pas trop. Puis, c'est ça, fait qu'ils ont décidé de les enterrer là.
OK.
Ouais.
OK.
Ils connaissaient l'emplacement. C'est mon père là, qui a pris l'initiative de faire une petite clôture là, pour vraiment...
Pour souligner
un peu. Ouais, c'est ça, souligner ça.
Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de José Maillot, Père André Laroche, Jeanne d'Arc-Manger, Gilles Manger et Micheline Lapointe-Manger. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Je tiens à souligner la participation généreuse de José Maillot à cet épisode en particulier. Son décès est survenu alors que je réalisais ce balado. Je souhaite lui rendre hommage parce que l'étude que cet anthropologue a réalisée dans les années 1960 au village dans le cadre de sa maîtrise et sur la thématique des rapports entre les vivants et les morts est essentielle à la compréhension de la culture de tête à la baleine. Je mesure la chance immense que j'ai eue d'entrer en conversation avec cette femme qui a su me partager avec humour et passion son amour encore bien vivant du village de tête à la baleine, de ses particularités et de ses habitants. Pour découvrir les textes de José Maillot, des légendes sur les revenants, d'autres détails sur les rituels funéraires ou toute autre information complémentaire ainsi que des photos d'archives sur cet épisode, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB, sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».